Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant dans cette édition spéciale sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer que la France est riche de talents. Et aujourd'hui, c'est donc au service de Notre-Dame qu'ils vont s'exprimer. Édition spéciale jusqu'à 14h avec nos invités. Ils sont là, en plateau. Ils agissent pour récolter des fonds, mettre la technologie au service du patrimoine, fournir aussi des savoir-faire et des matières premières. Ils sont avec nous. C'est ça, la France qui bouge. Et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
Le 39-21 est ouvert. On vous attend. Allez-y, composez-le pour être avec nous en direct jusqu'à 14h. C'est votre émission. Vous avez la parole sur Europe 1. Car aujourd'hui, Anissa, après l'incendie de Notre-Dame, c'est déjà à demain que nous avons envie de penser.
Oui, et venez partager vos idées. Vous avez des idées pour aider à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Venez témoigner au 39-21, le standard est ouvert. Et puis sur les réseaux sociaux, Twitter avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Et vous le savez, une réunion se tient en ce moment à Matignon pour préparer justement un plan de reconstruction. Et nous aussi, nous mettons en quelque sorte ce midi notre pierre à l'édifice. À mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde.
Et autour de la table, ici, dans les studios d'Europe 1, des faiseurs, des bâtisseurs, ceux dont c'est le métier, la vocation, s'engager pour la défense du patrimoine. Il y a à nos côtés Yves Hubelmann, président fondateur d'Iconem. Bonjour.
Bonjour.
Romain Delhomme, qui est cofondateur de D'Artagnan, qu'on a d'ores et déjà reçu. Hein, ici, les D'Artagnan, site de financement participatif dédié au patrimoine culturel. Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Frédéric Letoffé, qui est tailleur de pierre et également coprésident du GMH, qui est le groupement des entreprises de restauration des monuments historiques. Bonjour.
Bonjour.
Et Julien Lecarme, charpentier, responsable de l'Institut Charpente et Construction en bois au sein des Compagnons du Devoir.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Également à nos côtés, Emmanuelle Andrieux, maître verrier et dirigeante de la Maison du Vitrail. Bonjour.
Bonjour.
Et vice-présidente de la Chambre syndicale du Vitrail. Vont nous rejoindre au téléphone Michel Druil, président de l'interprofession France Bois Forêt, et Wafa Madnous, directrice de l'incubateur Louvre-Lens-Vallée. Vous verrez qu'ils ont aussi d'ores et déjà des idées pour relancer la construction justement de Notre-Dame. Je me tourne vers vous, Yves Hubelmann. Iconem a fait beaucoup parler d'elle, car vous nous avez permis, grâce à votre technologie, de revisiter ce qui n'existe plus. On pense évidemment à la cité de Palmyre. À l'époque, le dynamitage des temples par l'État islamique avait soulevé une sorte d'indignation internationale. Aujourd'hui, c'est un élan comparable qui s'exprime pour Notre-Dame.
Ah oui, tout à fait. Effectivement, c'est assez émouvant, et aussi c'est un peu chargé d'espérance, en fait, ce qu'on voit la réaction générale déjà des Parisiens hier soir, hein, quand on était en face de l'incendie, et puis aujourd'hui effectivement la réaction médiatique. Donc il faut profiter de cette énergie, justement l'utiliser positivement pour le futur de ce monument.
Alors vous, que pouvez-vous faire? Vous avez déjà commencé, je crois, à travailler sur les combles en 3D. Vous avez capturé les images des combles?
Alors, en fait, donc, nous, pour expliquer un petit peu ce qu'on fait, on utilise de la nouvelle technologie, notamment
l'intelligence
artificielle, oui, la photogrammétrie, en fait, pour documenter des édifices en trois dimensions et pouvoir faire des captations très rapides. Et ça marche assez bien, justement, dans les zones de conflit, hein, au cours de catastrophes. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup en Syrie, en Irak, en Afghanistan. Et du coup, ça s'adapte effectivement au drame qui s'est produit là. Donc, on utilise des drones, on utilise des algorithmes qui nous permettent de reconstruire, en fait, un monument dans l'état dans lequel on le voit. Hein. Donc ça, c'est la première étape. C'est une étape qui est fondamentale parce que pour les experts, effectivement, il faut avoir une idée très précise des structures qui restent, hein, et pour effectivement éventuellement faire des consolidations. Donc c'est une première étape qui est importante. Une deuxième étape, c'est justement plutôt utiliser les documentations anciennes, hein, pour reconstruire ce qui a disparu. Hein.
Donc, et vous avez ça dans votre base de données ?
On a, moi, j'avais visité il y a quelques mois les combles de Notre-Dame, justement, en prévision d'un projet qu'on devait faire à la fin de l'année. Donc malheureusement, c'est trop tard, mais Heureusement, il y a eu effectivement d'autres projets qui ont été faits, hein, avec des technologies similaires, avec du laser scanner par exemple. Et l'idée, c'est effectivement d'utiliser l'énergie de chacun, les données de chacun pour reconstruire en fait numériquement ce qui aujourd'hui malheureusement a disparu.
Oui, il y a l'intérieur, il y a l'extérieur aussi. On se souvient tous, et on en a parlé tout à l'heure dans le journal, de justement ce jeu, hein, via Ubisoft, Assassin's Creed. Ça, c'est pour la partie extérieure, mais tout ça, finalement, c'est un matériau qu'il va falloir utiliser pour réparer.
Alors, d'abord, l'urgence, hein, c'est effectivement, c'est réparer. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est produire de la documentation pour voir l'état des maçonneries de l'édifice, hein, et voir s'il a été fragilisé ou il a été fragilisé pour le consolider. Et cette urgence, c'est d'abord là-dessus qu'il faut concentrer notre attention et notre énergie. Après, effectivement, deuxième étape, c'est pouvoir reconstruire ce qui a disparu, au moins virtuellement, parce que la reconstruction physique, on en parlera sans doute après avec vous, mais la reconstruction physique va durer très longtemps.
Hein. Oui, d'autant qu'effectivement, Laurent Nunez précise à l'instant qu'il y a des vulnérabilités de la structure qui viennent d'être identifiées, notamment sur la voûte, et on va forcément en reparler. Je voudrais qu'on donne la parole à Romain Delhomme, qui est juste à côté de vous. Votre cœur de métier, Romain, c'est de réunir de l'argent pour le patrimoine. On a vu, hein, qu'il y avait des idées qui étaient en train d'émerger, des cagnottes qui ont été lancées, une souscription nationale aussi évoquée. Vous avez déjà commencé dès hier soir à vous mobiliser.
Bah effectivement, on a vu depuis 18h50 hier que tous ceux qui sont des professionnels du patrimoine et des passionnés du patrimoine se mobilisaient. Les tailleurs de pierre ont dit très rapidement qu'ils allaient bénévolement venir aider la cathédrale Notre-Dame pour travailler justement sur le monument. Tous les corps de métier réunis. Et nous, on s'est dit, qu'est-ce qu'on sait faire de mieux? C'est récolter de l'argent pour le patrimoine. Donc, on a lancé, suite à la sollicitation de notre grande communauté internationale, qui nous envoyait beaucoup de messages sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook, en nous demandant si on allait faire quelque chose. Et finalement, on a lancé assez spontanément une opération dont, bien sûr, l'intégralité des fonds seront reversés à Notre-Dame. Il n'est pas question de prendre le moindre centime sur la cagnotte.
Et vous nous disiez que vous aviez déjà récolté plus de 35 000 euros.
Je crois qu'on a 45 000 euros, là, aujourd'hui, de collecter. Il y a un peu plus de 1 000 participants. Il y a une quarantaine de pays qui ont participé, donc des citoyens qui vivent dans des pays autres que la France qui ont participé à cette opération-là. Et ce qui est très important, c'est pas tant la somme qu'on va collecter à la fin, parce que ce qu'on va réussir à collecter sur D'Artagnan sera une petite goutte d'eau. Mais ce qui va être le plus important, c'est de voir que les gens se mobilisent aussi bien en France qu'à l'étranger. Et cet esprit communautaire, finalement, c'est ce que représente Notre-Dame.
C'est ce qui est intéressant aussi, c'est que vous touchez déjà, parce que c'est déjà fléché, si j'ose dire, vous touchez déjà une communauté qui est sensible à tout ce qui a trait au patrimoine, justement. Donc, ces gens-là sont spontanément venus vers vous et vous dites, attention, nous, on prendra pas de commission.
Ah, ça, c'est sûr et certain. Encore une fois, nous, on essaie de jouer ce rôle d'intermédiaire entre la catastrophe qui s'est passée hier et les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux et qui nous font confiance depuis 3 ans maintenant. D'Artagnan, c'est une communauté. Ce n'est pas une plateforme de collecte de fonds, ce n'est pas un outil, c'est vraiment une communauté. Nous, on innove par l'innovation sociale, pas spécialement digitale.
Ouais, c'est du crowdfunding.
C'est du crowdfunding, c'est du financement participatif. Et dans le mot financement participatif, le mot le plus important, c'est le mot participatif, ce n'est pas tant le mot financement. Donc, on essaye, nous, à notre tout petit niveau, d'aider comme nous le pouvons la cathédrale. Et encore une fois, on espère qu'il y aura le plus de participants possible. Peu importe ce qu'on donne, hein, qu'on donne 1 euro, qu'on donne 100 euros, qu'on donne 1000 euros, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que les citoyens du monde entier puissent se mobiliser en allant sur la cagnotte Notre-Dame, je t'aime.
Et je précise qu'ensuite, vous ferez en sorte qu'un organisme gouvernemental viennent collecter ces fonds. C'est évidemment eux qui auront à les gérer.
Bien évidemment, là, il y a plein de discussions en ce moment. Donc, j'ai quelques informations en off pour savoir finalement qui sera en France l'institution qui va collecter toutes les initiatives, tous les fonds qui sont débloqués à la fois par les grandes familles que vous citiez tout à l'heure ou par d'autres initiatives comme la nôtre. Donc voilà, quand tout ça sera mis en place, bien évidemment, nous, on suivra la voie qui nous sera donnée et puis on reversera 100% des fonds collectés, bien évidemment, à l'organisme.
Et c'est vrai, Elisabeth, hein, que la cagnotte cagnotte augmente d'heure en heure, les dons se multiplient. Alors, la famille Pinault a promis 100 millions d'euros, tandis que le groupe LVMH et la famille Arnault, 200 millions, ça commence à grimper.
Oui, hein, d'ailleurs, le groupe Total vient tout juste d'annoncer un don total de 100 millions d'euros. Anne Hidalgo, la maire de Paris, a débloqué 50 millions d'euros aussitôt, hein, de la ville. Elle a proposé d'ailleurs une conférence internationale des donateurs à Paris. Il y a un fonds de dotation qui existe, hein, qui a été créé en 2014 pour le patrimoine à Paris. Et là aussi, on va mobiliser ce fonds pour lever de l'argent auprès des mécènes avec lesquels la ville travaille. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, l'a annoncé ce matin sur Europe 1. 10 millions d'euros d'aide d'urgence pour aider l'archevêché à faire les tout premiers travaux qui vont être donc débloqués. La Fondation du patrimoine, qui est une organisation privée qui œuvre tout le temps à la sauvegarde et la valorisation du patrimoine français, a lancé une collecte nationale pour la reconstruction de la cathédrale. Une collecte qui est accessible depuis midi sur le site fondation-patrimoine.org. Aucun frais, là aussi, ne sera prélevé. Tous les dons donneront lieu à un reçu fiscal. D'Artagnan, on vient d'en parler, bien sûr. Une autre lancée par Litchi, qui est intitulée « Financement des réparations de Notre-Dame de Paris » a été lancée. D'autres cagnottes en ligne ont elles aussi été certifiées comme celle de l'Observatoire du patrimoine religieux sur le site Le Pot Commun.
On reste ensemble, évidemment, sur Europe 1 et on va s'intéresser dans un instant à la structure, Anissa.
Il est 13h10.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va donner la parole aujourd'hui sur Europe 1, dans la France qui bouge, à ceux qui se retroussent les manches et qui ont le savoir-faire pour rebâtir. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les artisans d'art, les associations, les start-up, ils sont tous mobilisés et ils sont autour de vous aujourd'hui. Raphaël Duchemin, vous pouvez bien sûr participer à cette émission. Vous voulez participer à la reconstruction, vous avez des idées, venez les partager avec nous. Standard Europe 1, c'est le 39-21 et puis sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Rebâtir Notre-Dame. Le chargé de mission du Loto du patrimoine, Stéphane Baird, disait ce matin que cela prendrait 10 à 20 ans au minimum. Par où commencer ? Peut-être par ce qui n'est plus, la charpente, la toiture. Julien Lecarme, c'est votre métier. Vous êtes charpentier, vous êtes depuis 2014 responsable de l'Institut Charpente et Construction Bois aux Compagnons du Devoir. La forêt, puisque c'est son nom, hein, est à rebâtir. C'est comme ça qu'on appelait les combles de Notre-Dame.
Tout à fait, tout à fait.
On commence par quoi ?
Sécuriser, déjà. Il y a un gros chantier qui va commencer à court terme de sécurisation, consolidation. Il faut évacuer l'échafaudage qui s'est à moitié soudé au-dessus. On a eu, de ce que j'ai entendu, aucun blessé, rien. Il faut que ça continue. C'est un chantier qui va être un peu risqué sur la première partie. Il ne faut pas que les intempéries continuent.
Parce que les poutres qui restent encore peuvent éventuellement
s'effondrer. Il va quasiment falloir
s'effondrer.
Échafauder l'échafaudage et démonter quelque chose qui a brûlé dans cet état où on est à peu près sûr de rien sur la structure. Donc il va y avoir des approches un peu, pas à tâtons parce qu'on n'essaye pas pour voir si ça tient, mais les approches vont être assez difficiles à faire en sécurité. Donc il y a un gros travail de sécurisation et puis on verra arriver derrière le travail d'étude assez long à venir pour savoir comment, quoi faire, où il faut le faire, etc.
La grande chance, j'ai envie de dire, c'est qu'on a les compétences, on a le savoir-faire.
Alors, les savoir-faire, ils existent. On a entendu beaucoup de choses là-dessus, mais ils existent largement. Hein. On a vu une mobilisation très forte. Il y a énormément d'ouvriers qualifiés, compétents, qui sont prêts à travailler sur ce type d'ouvrage, pour qui c'est un plaisir et quasiment un honneur. Il y a une vraie activité dans les métiers du patrimoine. Il y a beaucoup de jeunes qui sont formés là-dessus. Il y a des moins jeunes, il y a des gens très experts. On aura la ressource pour le faire.
La ressource, c'est du chêne, forcément.
Difficulté.
Il y a un débat sur
alors, dans la
comment
ressource de
rebâtir
matière,
les combles.
On entend plusieurs choses. Puis j'ai vu qu'on avait au téléphone quelqu'un de France Bois Forêt.
Oui,
j'ai échangé avec eux ce matin,
l'heure.
Justement, pour vérifier mes informations, parce que ce n'est pas ma spécialité à moi.
Il y a plusieurs choses, effectivement, qui ont circulé, notamment les inquiétudes de certains qui disent qu'on n'a pas forcément de quoi refaire à l'identique. Si, manifestement. Bah,
c'est un type de sylviculture qu'on n'a pas continué. Par contre, la ressource forestière française se porte bien. Donc il y a quand même de fortes chances, et on le voit avec la mobilisation en euros, hein, qu'on arrive à trouver la ressource en matériaux bois. Là, c'est essentiellement du chêne qu'il va falloir en quantité importante,
parce que
c'est sûr.
Extrêmement solide, fait
parce
pour ce genre de structure.
Parce que solide, et c'est les bois nobles qu'on utilisait pour ce type de bâtiment à l'époque.
Les sections de bois, les morceaux de bois qu'on va devoir mettre, si c'est le bois qui est choisi au final,
ça ne pourra pas être autre chose que le bois.
Je vous pose la question parce que certains disent on peut faire peut-être comme à Reims, utiliser du béton. Est-ce que c'est possible dans ce type d'ouvrage, dans ce type d'édifice, comme la cathédrale ?
Techniquement, c'est possible de faire avec beaucoup de matériaux. On voit quand même aujourd'hui, au début du XXIe siècle, que le béton, c'est un peu un ancien monde derrière nous. On ne va peut-être pas reconstruire Notre-Dame avec ce monde, cette technologie-là. La ressource bois, elle existe. Oui, ce sera des sections importantes. Il y a des arbres importants. C'est pour ça qu'on la surnomme la forêt. Après on l'a sur le territoire forestier français.
Même élan, je suppose, même implication aussi chez les tailleurs de pierre, parce que c'est aujourd'hui la structure, hein, les voûtes, les murs qui doivent être eux aussi sécurisés. Frédéric Le Toffet, vous avez avec le groupement des entreprises des monuments historiques déjà des spécialistes qui sont sur place pour évaluer, je crois, l'ampleur des dégâts sur le bâti.
Oui, tout à fait. On a des entreprises qui ont travaillé toute la nuit, qui ont même participé à évacuer des œuvres inestimables dans la cathédrale. Donc, ces entreprises sont déjà mobilisées au jour d'aujourd'hui avec les instances publiques, donc la DRAC, hein, la Direction régionale des affaires culturelles, et puis également l'architecte en chef qui supervise aussi les travaux, qui supervisait les travaux initialement et qui est sur place en permanence. Donc, nous avons effectivement des entreprises qui sont à la mesure pour pouvoir aborder les différentes problématiques qu'on peut rencontrer actuellement sur le site, notamment des risques de chute de pinacles ou de voûtes qui sont en équilibre au jour d'aujourd'hui et qu'il va falloir maintenir
donc
en urgence.
Soutenir les parties qui sont en souffrance.
Tout à fait. Donc il y a un diagnostic précis qui doit se faire immédiatement pour permettre d'intervenir, de mettre des étaimants, de mettre des confortations aux endroits les plus critiques pour éviter que d'autres parties ne s'effondrent dues à l'incendie et également au poids de l'eau qui a été nécessaire pour éteindre l'incendie.
Oui, parce qu'il y a eu de gros écarts de température. Exactement. Avec d'abord les flammes, puis ensuite l'eau.
Exactement,
une forte chaleur. Ça peut provoquer justement une instabilité sur la structure.
Alors, il y a plusieurs situations. Il y a déjà le choc thermique, parce que quand on a des fortes chaleurs qui dépassent les 1000 degrés et que vous mettez de l'eau dessus, vous avez un choc thermique très important qui ébranle les maçonneries, notamment la pierre qui éclate dès le contact de l'eau. Donc on doit effectivement mettre ces mesures en situation et mettre les protections nécessaires au plus vite.
Il faut couvrir aussi, ça c'est important pour que ça ne s'abîme pas davantage.
Exactement, ça sera une autre étape parce que déjà il faut effectivement conforter, mais il va falloir mettre rapidement un échafaudage et un parapluie. Donc c'est une structure autoporteuse qui ne doit pas porter bien sûr sur l'édifice, et de ces structures porteuses doit s'appliquer une charpente et une couverture provisoire pour mettre en sécurité l'ensemble de l'édifice.
Elisabeth, il y a déjà eu des appels à l'aide pour sauver Notre-Dame. Je crois que c'était en 2017, c'est assez récent.
Oui, en 2017 déjà, la priorité des priorités, c'était la flèche. Hein. 4 ans de travaux étaient prévus, la restauration...
La flèche qui n'est plus aujourd'hui.
Qui n'est plus, voilà. La restauration avait débuté en 2018, donc c'était donc en cours. En 2017, un cri d'alarme avait été lancé par l'architecte en chef des monuments historiques en charge de la cathédrale. Donc c'était d'abord la flèche. 2022, après la flèche, un autre grand chantier qui a été prévu, c'était le chevet avec le remplacement des fameuses gargouilles, ainsi que des travaux de consolidation du chemin de ronde qui entoure la cathédrale, ainsi que la restauration de la sacristie, la petite chapelle attenante, remplacer les pierres qui s'effritent, refaire les joints. La maçonnerie était dans un état catastrophique, c'est ce qui avait été constaté, il y a 2 ans. Et à l'époque, c'était un programme évalué à 10 millions d'euros.
Oui, vous confirmez.
Tout à fait. Enfin, c'était 10 millions d'euros par an.
Hein.
Le projet global était de 150 millions d'euros. Et il y avait effectivement un engagement de 10 millions par an par l'État. Et beaucoup de mécènes aussi qui se sont investis. Hein. Beaucoup aux États-Unis et en Amérique du Sud avaient aussi financé ces travaux. Et donc pour pouvoir sauver la cathédrale, et notamment effectivement sur ces parties que vous venez de citer.
On reste ensemble sur Europe 1 et dans un instant, on continue à sauver Notre-Dame.
Il est 13h21.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On va s'intéresser notamment aux vitraux, car oui, ça fait partie des joyaux de la cathédrale. À protéger. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Des artisans d'art, des associations, des start-up, ils sont tous français et ils vont tous s'investir dans cette reconstruction. La France bouge, ils sont autour de vous, Raphaël Duchemin, et on lit vos messages sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On vous écoute également au standard, le 3921.
Et nous sommes maintenant avec Emmanuelle Andrieux, vice-présidente de la Chambre syndicale du Vitrail. De l'extérieur, Emmanuel, et dans l'énoncé des dégâts constatés, il semble, je dis bien il semble, que les vitraux n'aient pas véritablement souffert. Vous dites, attention, il va falloir aller voir de très près.
Oui, parce que a priori, au vu de ce que j'ai lu ce matin, il y a une partie qui a explosé. Une autre, en tout cas la rosace sud, n'aurait pas été touchée. Mais je dis bien aurait, parce qu'on est un peu comme les tailleurs de pierre ou... quand
il y a
vous
ce
avez
qu'on
regard...
voit et puis il y a ce
Exactement.
Qu'on voit de très près quand on est un expert.
Exactement, quand vous avez une telle chaleur à l'intérieur de la cathédrale et qu'à l'extérieur vous voyez les pompiers avec leur lance à incendie propulser de l'eau sur les rosaces, on va avoir un choc thermique, on aura des cases de chauffe et en fait c'est l'explosion des micro-fissures dans tous les verres.
Ça veut dire qu'on va avoir des verres qui seront fragilisés, des peintures aussi qui vont peut-être être détériorées?
Alors les peintures ne seront pas forcément détériorées par elles-mêmes, mais si le verre est cassé, il va falloir que de toute façon on dépose tous les panneaux pour pouvoir ensuite, soit il y a plusieurs systèmes de restauration, soit c'est vraiment trop abîmé et à ce moment-là on enlève tout et on refait à l'identique parce qu'on est capable, parce que nous avons les moyens humains, que ce soit dans n'importe quel métier.
C'est ici en France que sont les savoir-faire, faut le dire.
Exactement, mais il faut savoir quand. Et en vitrail, on a 60% du patrimoine mondial au niveau du patrimoine de vitrail.
Qui est ici sur le territoire français.
En France, la cathédrale est évidemment extraordinaire. On a des vitraux qui sont splendides dans l'intégralité de la France. Et la cathédrale, bah évidemment, on avait des vitraux du XIIIe siècle réellement. Alors, c'était réellement les trois rosaces. Et ensuite, les autres panneaux étaient plutôt du XXe. Donc, ça reste un patrimoine et on est capable de les restaurer. Nous avons les moyens, tant humains, les savoir-faire. Et ensuite, évidemment, les verres, les émaux, les crisailles, enfin tous les matériaux.
Alors, vous dites aussi, il va falloir regarder de près les jointures, parce que ça aussi, ça peut avoir souffert.
C'est ça, c'est qu'avec une telle chaleur, on a les plombs qui auront pu se dégrader, se déliter. Sauf qu'aujourd'hui, et je tire un peu la sonnette d'alarme, c'est qu'on se retrouve avec une proposition qui a été formulée par la Suède contre le plomb et que le plomb
proposition européenne ?
Une proposition européenne. Et on se bat avec la chambre syndicale et avec mon président Jean Maune, justement, sur cette annonce qui a été faite, comme quoi le plomb serait une substance extrêmement préoccupante. Sauf que si on arrive à ce système-là, c'est que dans 4 ans, il n'y aura plus de plomb. Comment allons-nous faire pour restaurer notre grande dame si nous n'avons plus de plomb ? Comment on va faire pour restaurer le patrimoine, l'intégralité de nos églises ? Et pas que, parce qu'il y a les églises, mais il y a d'autres monuments. Il y a des particuliers aussi qui ont des œuvres extraordinaires chez eux. Donc comment allons-nous faire si nous n'avons plus de plomb ? Le plomb, c'est la jointure, mais c'est aussi nos soudures. Nos soudures sont avec du plomb. Il y a un pourcentage de plomb dedans. Si on enlève tout ça, nous n'avons pas de moyens de substitution. Donc comment allons-nous faire pour continuer ? Aujourd'hui, on est capable de le faire. Mais ne nous mettons pas des bâtons dans les roues.
On reste ensemble, on continue à débattre et à parler de cette reconstruction à venir de Notre-Dame.
Il est 13h29.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on vous attend bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1. Vos questions, vos initiatives aussi sont les bienvenues. C'est vous, la France qui bouge. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec une édition spéciale aujourd'hui consacrée à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous êtes entouré, Raphaël Duchemin, d'artisans d'art, d'associations, de start-up toutes françaises qui vont œuvrer tous ensemble pour la reconstruction de cette cathédrale. Et vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1 et au 3921, le standard 50 centimes la minute, Raphaël.
Nous sommes avec Yves Hubelmann, président fondateur d'Iconem, Romain Delhomme, cofondateur de D'Artagnan, Frédéric Le Toffet, tailleur de pierre et coprésident du groupement des entreprises de restauration des monuments historiques, Julien Lecarme aussi, charpentier responsable de l'Institut Charpente et Construction Bois au sein des Compagnons du Devoir, Emmanuel Andrieux, maître verrier. Carrier, dirigeante de la Maison du Vitrail, sont au téléphone avec nous et ils vont nous rejoindre dans un instant. Michel Druil, président de l'interprofession France Bois Forêt, et Wafa Madnous, directrice de l'incubateur Louvre-Lens Vallée. Toujours à mes côtés, bien sûr, Elisabeth Assayag qui m'accompagne tout au long de cette émission. Comment rebâtir Notre-Dame? C'est la question qu'on vous pose aussi. C'est vrai qu'on sait faire, tout est une question de temps. Est-ce que nous avons déjà des appels ou des idées?
On a beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez continuer, hashtag Europe 1 pour Twitter. Il y a Arfang qui nous dit avec le hashtag Europe 1, une question qui me taraude depuis ce matin. Que va faire le Vatican? Pourtant, il y a de l'argent chez eux.
Alors, le pape a d'ores et déjà réagi et il a effectivement demandé à la communauté de se mobiliser. Il n'a pas encore précisé effectivement si le Vatican allait mettre la main au portefeuille. C'est effectivement une idée à conserver. Moi, j'ai envie de parler des charpentes parce qu'on l'a déjà évoqué, mais c'est vrai que c'est un des éléments importants dans cette reconstruction à venir de Notre-Dame. Et je voudrais qu'on accueille ensemble Michel Druil, qui est le président de l'interprofession France Bois Forêt. Michel Druil, bonjour. Vous dites qu'on se rassure, on a ce qu'il faut en France pour faire face, on a la ressource. Combien d'arbres vont être nécessaires si on veut demain reconstruire à l'identique les combles de Notre-Dame?
Bonjour. Écoutez, je peux dire de manière un peu symbolique, probablement 1 000 000 d'arbres. Mais ça veut dire quoi 1 000 000 d'arbres? C'est rien du tout pour la forêt française. Je vais simplement rappeler quelques chiffres. La forêt française, c'est 16,9 millions d'hectares de forêt, dont 10 800 000 hectares de feuillus et 4,5 millions d'hectares de chênes. Lorsqu'on a construit il y a 859 ans cette superbe cathédrale qui malheureusement vient d'être agressée par l'incendie, les architectes et enfin les concepteurs de l'époque avaient trouvé le bois en forêt francilienne. Ouais. Et aujourd'hui, certainement, il n'y a aucune difficulté pour trouver le bois. Les forêts françaises sont des forêts qui sont gérées durablement. Et c'est vraiment pas le problème de l'approvisionnement. Maintenant, le problème, c'est que va-t-on faire réellement pour reconstruire ce bel édifice?
Vous dites, Sylvain Charlois, qui est le patron du groupe Charlois, premier exploitant de chênes, est déjà prêt à offrir le bois?
Oui. Mais je crois que, pour faire simple, sous le coup de l'émotion, évidemment, tout le monde se mobilise. Depuis hier soir, les coups de fil se multiplient chez moi et dans notre interprofession. Tout le monde, l'ensemble de la filière est très solidaire, donc toutes les initiatives sont excellentes. Mais aujourd'hui, je crois que le compagnon du devoir l'a dit tout à l'heure, nous ne savons pas exactement encore ce que nous allons faire. Nous devons consolider la structure avant de savoir exactement ce dont nous aurons besoin. Ce que nous savons, c'est que très probablement, cette charpente sera de nouveau en chêne et la filière, les forestiers comme les entreprises de transformation seront là pour répondre présent le jour venu et pour fournir les bois qui conviennent évidemment. Et
quel âge aura le bois qu'on va utiliser si demain on utilise effectivement ce chêne?
Un chêne atteint sa maturité entre 100 et 150 ans. Donc, vous voyez, les forêts du 12e siècle ou du 11e siècle ont été déjà renouvelées 5 ou 6 fois depuis qu'on a commencé, qu'on a pris quelques éléments pour construire la forêt, c'est vrai.
Ouais, ça veut dire qu'il va falloir aussi penser à enlever un chêne, en replanter un, je suppose, et ça sera l'étape suivante.
C'est la définition tout à fait exacte de la gestion durable de la forêt. Nous gérons en France, les forestiers, les entreprises gèrent la forêt de manière durable et nous avons depuis plus de 400 ans cette forêt gérée durablement, c'est-à-dire qu'effectivement, lorsque nous récoltons du bois, nous régénérons de la forêt, nous replantons de la forêt, nous remplaçons et 150 ans plus tard, on aura de nouveau des beaux chênes pour faire ces charpentes.
Et Elisabeth, les propriétaires forestiers sont aussi appelés, je crois, à donner.
Oui, c'est un appel lancé par la Fondation Francilva qui assure la promotion des forêts privées de France. Cette fondation souhaite mobiliser les 3,5 millions de propriétaires privés de forêts en France pour leur demander de donner un chêne pour la reconstruction de Notre-Dame. D'ailleurs, un exploitant de la Nièvre l'a dit ce matin, il va offrir du bois, c'est le groupe Charlois. Le président du groupe l'a annoncé ce matin qu'ils mettront tout ce qu'ils peuvent à disposition. Ils comptent mettre leur réseau au service des monuments de France.
Anissa, des messages oui. Sur Twitter.
Beaucoup de réactions. Il y a Steph qui nous dit « La réfection de la cathédrale devrait être l'occasion de mettre en avant les métiers manuels si mal perçus en France. Il faudra nommer tous les ouvriers, les charpentiers, les zingueurs qui auront participé au chantier et mettre en avant le compagnonnage. »
Oui, vous êtes d'accord évidemment autour de cette table. Hein. Oui.
Mais c'est tout à fait ça. Le groupement que je co-préside, c'est 12 métiers, c'est plus de 10 000 personnes, c'est plus de 130 centres de formation qui travaillent autour du patrimoine. Il faut savoir qu'on a de la manœuvre, on a des jeunes, on a des moins jeunes, et on a des gens qui sont passionnés, qui travaillent pour ce patrimoine. Et donc on a besoin effectivement de mettre en avant, encore une fois, les métiers manuels, parce qu'ils sont malmenés. Il faut le savoir qu'on a un peu dénigré ces métiers-là, et le fait de mettre en avant ces métiers à travers une restauration de telle ampleur serait extraordinaire. Donc encore une fois, effectivement, il faut parler des métiers derrière. Parce que derrière un patrimoine, il y a des savoir-faire, des vrais savoir-faire.
Julien Lecarme, vous êtes d'accord hein, pour les compagnons du devoir?
Évidemment, je suis d'accord. C'était une partie de ce qui était émouvant hier soir. C'est la compétence n'a pas disparu, mais le témoignage laissé par ces hommes et ces femmes, ces ouvriers qui ont bâti ça, lui, a disparu. On va le rebâtir. Enfin, les inquiétudes sont inexistante là-dessus. On voit bien que les moyens financiers arrivent très rapidement. On a dit des gens, et comme disait le président de France Boisfouret tout à l'heure, je leur dis, il y a des choses qui sont dites aussi sous le coup de l'émotion, il faut respirer un petit peu. On ne va pas le rebâtir en 2 heures, on ne va pas lever la main tout de suite pour dire j'y vais, je prends ma sacoche, mon marteau. Mais ces métiers, vous parliez de métiers, d'entreprises qualifiées, il y en a plein qui recherchent aussi des jeunes. Hein.
C'est des métiers qui sont en tension aujourd'hui. Les gens qui vous ont appelé d'ailleurs pour vous dire on vient. Alors,
non, mais le message qui m'a porté, là, c'était de dire que nos métiers sont en tension aujourd'hui. Il y a de l'emploi en couverture. Il y avait de l'emploi avant, à 18h hier, il y avait de l'emploi en couverture, en charpente, en taille de pierre. Il y en aura demain. Ce n'est pas des occasions de faire de l'emploi, que ces drames-là. Mais c'est des métiers porteurs. On fait des vaisseaux qui traversent le temps, 800 ans pour celui-ci. C'était assez joli.
On a quand même une vraie responsabilité, c'est de transmettre aux générations futures un patrimoine. Donc on porte quand même les choses.
Hein, avez raison, et on va le faire.
Mais il faut avoir aussi une philosophie.
Emmanuel Landrieu.
Je vais dire que je suis peut-être une râleuse, mais il faut avoir une philosophie de vie aussi et de manière de voir les choses. Quand je vois que sur des appels d'offres, on est sélectionné parce que c'est le moins 10 ans et non pas, je dirais, entre guillemets, le mieux faisant, ça me révolte quand même. Parce que quand j'arrive sur certains chantiers où finalement, dans mon métier, il y a du masticage, donc la finition du vitrail qui doit être fait des deux faces pour avoir une solidité du panneau et le rendre complètement étanche. Si c'est fait que d'un seul côté, ça ne va pas. Et on le voit régulièrement. Donc on a des entreprises et qui peuvent être avec des qualifications, des grands termes, etc. Et avec des GMH, des EPV ou autres. Mais sur certains chantiers, ils se conduisent mal. Et là, il faut absolument ne jamais rencontrer ça sur un tel bâtiment. Il faut vraiment que les architectes soient derrière, connaissent et comprennent le métier et le connaissent vraiment, soient allés dans plusieurs ateliers pour avoir vraiment recherché le bon artisan qui soit capable de se regarder le matin en se disant « Tous les jours de ma vie, j'ai fait un vrai beau métier jusqu'au bout. »
On reste ensemble et on continue à rebâtir Notre-Dame.
Il est 13h40.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous, vos idées, vos initiatives, on vous attend sur Twitter, hashtag Europe 1 et au 3921. A tout de suite, c'est La France qui bouge.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec une émission spéciale aujourd'hui consacrée à la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Artisans d'art, associations, start-up, ils sont tous français et ils sont tous engagés dans cette reconstruction. Ils sont autour de vous, Raphaël Duchemin, et vous pouvez réagir. 3921 et hashtag Europe 1.
Et on est évidemment en train de parler de Notre-Dame, notre Notre-Dame, qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, une cathédrale déjà meurtrie, mais qui a toujours survécu à ses blessures. Ce qui impose évidemment un cahier des charges très particulier pour la refaire. On a aussi, c'est vrai, dans notre écosystème, des gens qui ont de nouvelles techniques, de nouvelles technologies à notre disposition. C'est votre cas, je crois, à l'incubateur du Louvre-Lens, Wafa Madnous, bonjour.
Oui, bonjour.
Merci, merci d'être avec nous. C'est vous qui le dirigez, cet incubateur. Vous êtes déjà venu ici hein, sur Europe 1, dans La France qui bouge. Vous dites, on peut, nous, d'ores et déjà mobiliser nos startups. Vous en avez qui peuvent directement venir et agir?
Mais déjà, je tenais à exprimer effectivement toute l'émotion qui se cache derrière cet incendie qui a duré de longues heures hier et qui a créé du coup beaucoup de frustration, je pense. beaucoup de frustration chez nous, dans l'équipe, mais aussi auprès des entrepreneurs qui œuvrent tous les jours à travers effectivement des solutions innovantes pour préserver le patrimoine. Je pense que le message numéro un, c'est que effectivement la culture et le patrimoine appartiennent à l'histoire de tous les citoyens. Et le fait qu'une partie de la cathédrale est brûlée, ben, c'est finalement une partie de nous aussi qui est partie en fumée. Donc il y a eu des premières réactions depuis hier soir de dire mais comment à notre niveau on peut œuvrer et apporter notre brique à ce modeste hôtel.
Alors comment est-ce que vous pouvez faire? Alors,
on a déjà des entrepreneurs en interne, donc dans la dernière promotion que l'on accompagne, qui se sont positionnés, qui ont effectivement développé des activités et technologies qui peuvent répondre et participer à ce mouvement de reconstruction, mais aussi de mise en valeur transitoire de l'édifice afin de permettre aux milliers de visiteurs
par exemple,
de contempler Notre-Dame.
Je vous presse un peu, mais le temps est compté.
Voilà, je parle de, notamment d'Octus. Je pense que ça rejoint pas mal ce que fait Iconem, donc qui ont développé des technologies digitales d'immersion grâce à la modélisation 3D, à la photogrammétrie, qui peuvent permettre justement de projeter le futur, mais aussi l'ancien. Mmh. On a aussi Protomotech qui est une start-up aussi qui a développé des capteurs autonomes et personnalisables dans un environnement de conservation et d'acteurs de la culture qui permet effectivement de faire de la remontée d'informations, de l'analyse et de contrôle de l'environnement.
Qui aurait pu
et
être notamment, utile par exemple sur le déclenchement d'un incendie?
Et bien, en fait, ils œuvrent dans la vigilance des lieux culturels avec détection d'anomalies. Donc, en l'occurrence, ça aurait pu être, alors je ne vais pas jusqu'à dire que ça aurait pu empêcher ou détecter, mais en tout cas, ça a un rôle de vigilance pour faire remonter tout type d'anomalie et donc de prévenir directement les acteurs pour couvrir la problématique.
Alors justement, je me tourne vers les invités qui sont ici en plateau sur Europe 1. Puisque nous sommes dans un lieu inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce sont des nouvelles technologies qu'on peut intégrer ou qu'on peut envisager d'intégrer sans que ça pose un problème particulier, un problème majeur aux architectes des bâtiments de France notamment?
D'abord, pour ce qui est effectivement toutes les technologies numériques, hein, c'est des technologies qui sont non-invasives, hein, c'est des technologies de documentation. Donc elles ne vont pas effectivement transformer l'édifice lui-même et elles permettent simplement d'avoir une lecture beaucoup plus précise et détaillée de l'état du monument. Et dans ce domaine-là, on va avoir besoin des compétences de tout le monde. C'est un drame national, donc il faut qu'effectivement toutes les compétences nationales puissent s'aligner et travailler ensemble justement pour réussir à documenter de manière la plus précise possible ce monument.
Vous dites, vous, justement, nous, on va mettre notre énergie et notre savoir-faire au service de cette reconstruction. Hein. Vous dites, on va l'offrir.
Bien sûr, bien sûr. Et j'espère qu'on ne sera pas les seuls. Enfin, je veux dire, on n'est déjà pas les seuls. Donc, en fait, il y a effectivement cet enthousiasme collectif qu'il faut réussir à suivre et surtout, effectivement, apprendre, comprendre, à effectivement travailler ensemble avec nos compétences et nos métiers différents. Et de la même manière qu'effectivement, on a des compétences artisanales qui sont extraordinaires en France, on a aussi des compétences technologiques. Et quand on arrive à effectivement mélanger tout ça, ça peut donner effectivement des travaux extraordinaires.
Elisabeth, l'UNESCO, ça signifie quoi justement pour la préservation de Notre-Dame?
L'UNESCO, déjà, Notre-Dame, elle est inscrite depuis 1991 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'UNESCO, bien, elle se tient à côté de la France, hein, c'est ce qu'a déclaré Audrey Azoulay, sa directrice générale. Ça signifie que l'UNESCO est déjà en contact avec des experts. L'UNESCO, ils sont prêts là, pour l'envoi d'une mission d'urgence pour estimer les dommages et pour préserver ce qui peut être préservé. Donc l'UNESCO va faire partie hein, aussi de cette reconstruction de la cathédrale.
Et vous aussi, Wafa, vous allez vous engager avec le Louvre-Lens. Vous avez déjà des initiatives en tête?
Mais on est en pleine réflexion justement, mais l'objectif c'est comment on peut aider à travers notre cœur de métier, notre expertise, que sont l'accompagnement de porteurs de projets innovants dans le domaine culturel notamment. Du coup l'objectif c'est de se dire on aimerait pouvoir, dans le cadre de notre prochaine promo par exemple, détecter et sourcer des projets susceptibles de répondre aux enjeux précédemment évoqués. Et je tiens aussi à attirer l'attention sur le provisoire, c'est-à-dire que voilà, les travaux vont prendre un temps assez conséquent. Comment faire en sorte de continuer à faire rayonner ce patrimoine et à projeter les citoyens et les futurs visiteurs à continuer à vivre une expérience positive? de ce patrimoine et à continuer à le diffuser. Donc, dans le prochain appel à projet, c'est en réflexion. Aujourd'hui, on y met tous, en tout cas, notre énergie pour structurer la démarche. Et donc, on lance aussi un appel à la manifestation. Tous ceux qui sont prêts dans le faire ensemble pour permettre de faire de cette reconstruction, j'ai envie de dire, un projet plus global et fédérateur de la transmission de la culture, ben on y sera ouvert, évidemment.
On reste ensemble et on continue à parler pendant encore 10 minutes, justement, de cette reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame.
Il est 13h49.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous, bien sûr, 3921 et Twitter, hashtag Europe 1, on vous attend.
La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin et ses invités mobilisés, artisans d'art, associations, start-up, ils sont mobilisés pour la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Vous pouvez réagir à cette émission, n'hésitez pas, on vous écoute au 3921 et on vous lit sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1, Raphaël.
Et il y a eu par le passé d'autres monuments qui ont brûlé et qu'on a su refaire. Alors, je sais que le terme ne plaît pas forcément, on ne dit pas refaire.
Hein. Restaurer.
On dit restaurer,
on ne dit pas artisan d'art, mais artisan du patrimoine ou métier du patrimoine. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a une frontière qui est à respecter, on va dire. Mais
oui,
bon, non,
c'est important. C'est important pour vous et on l'entend. On a pas mal de messages, Anissa, je crois, sur
oui,
Twitter.
On a beaucoup de réactions, effectivement. Tristana nous dit donner 1 euro chacun, cela ferait des milliards. C'est trop important. Allez-y. Will nous dit très belle idée, très belle initiative, cette émission. Notre-Dame aura besoin de beaucoup de belles personnes. Hervé nous a appelé au 3921. Il faudrait que la monnaie de Paris fasse des pièces de 10 euros frappées de Notre-Dame pour financer les travaux. Alors, il y a déjà un financement, puisqu'en ce moment, si vous achetez la collection Stéphane Bern de la monnaie de Paris, 1 euro est reversé à la Fondation Patrimoine de Stéphane Bern. Et sur ces pièces, alors il n'y a pas Notre-Dame, mais il y a la Tour Eiffel, Louis XIV, alors, Louis XVI, D'Artagnan.
Mais justement,
la monnaie de Paris va rééditer une médaille de 2013 au profit de la reconstruction. Elle représente sur ses deux faces la cathédrale et la rosace principale de la façade ouest.
Romain Delhomme, je voudrais vous redonner la parole avant que l'émission se termine. Tous les dons, toutes les manières de donner sont bonnes à prendre aujourd'hui.
Oui, on peut donner effectivement de l'argent, mais on peut aussi donner de son temps. Moi, si je dois formuler un peu un rêve que j'aurais pour le futur chantier de Notre-Dame, j'étais hier au château de Guédelon, qui se trouve en Bourgogne, en fait, qui est un immense chantier participatif où le public vient voir comment est-ce qu'on construit un château médiéval en utilisant les techniques de l'époque. Et je trouve que Notre-Dame, pour être un super bel exemple, finalement, de réunir tous les corps de métier et d'avoir un chantier de découverte à ciel ouvert qui pourrait aussi permettre au public de voir finalement tous ces métiers qui sont un peu méconnus, que ce soit les charpentiers, les tailleurs de pierre. Et moi, je trouve que ce soit les cagnottes en ligne ou le futur chantier, ce grand mot participatif avec toutes les bonnes volontés, moi, c'est vraiment un rêve que je forme là aujourd'hui dans votre émission, c'est que le chantier de Notre-Dame de Paris soit ouvert au public et que chacun puisse venir découvrir ces métiers méconnus et surtout forme des jeunes et crée des vocations. Et là, finalement, ce drame pourra peut-être se transformer en quelque part en rêve, en tout cas en ce qui me concerne.
Je voudrais qu'on termine avec quelques messages, Anissa, avant de se séparer.
Evelyne au 3921 qui nous dit « Et Google, et Amazon, et Facebook, ils ne payent pas d'impôts en France. Ils pourraient peut-être ouvrir leur portefeuille maintenant. »
Allez-y, donnez.
Anne, j'entends très bien la fierté relative au vu des dons des entreprises françaises, mais il ne faut pas oublier de dire que les messages de soutien, de dons viennent du monde entier et aussi de l'étranger.
Merci à tous d'être investis au chevet de Notre-Dame. Merci d'avoir été avec nous pour essayer de la restaurer, Notre-Dame, et de la faire encore plus belle qu'elle n'était.